Alors, je me présente tout d'abord. Je suis Julien Goupil. J'ai le privilège d'animer cette table. Je suis directeur de l'association Empreinte Citoyenne et je suis tout à fait heureux qu'on m'ait confié cette question qui est comment les organisations intègrent-elles les aspirations de la citoyenneté écologique en Europe ? Alors, on parle beaucoup de responsabilité sociétale des organisations. Je crois qu'en effet, on n'arrivera pas à une action efficace si on travaille collectivité d'un côté, entreprise de l'autre. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire de cette table une table très diversifiée, hein, puisqu'on a une collectivité qui est représentée. Je présenterai tout à l'heure tous les intervenants. Une collectivité qui est représentée, on a une entreprise qui est représentée et on a des réseaux qui sont représentés à cette table. Une chose importante sur le développement durable, on parle souvent du local au global. Et c'est un petit peu comme ça qu'on a voulu construire cette table ronde. Essayer de partir d'un territoire, vous allez le voir avec le territoire de Malonnais, un territoire de 7000 habitants, et essayer de voir comment, justement, cette application du développement durable et la prise en compte de la parole citoyenne peut se faire aussi après dans une entreprise nationale. Et ensuite, voir comment les réseaux peuvent soutenir, même international, bien sûr, comment les réseaux peuvent soutenir aussi cette dynamique-là. Puisque, évidemment, hein, dans la prise en compte de la considération et des aspirations citoyennes, eh ben, on est un peu dans la découverte, dans l'expérimentation. Hein, on n'est pas encore arrivé à maturité, on le voit bien. Hein, les différents mouvements qui rythment nos actualités. En France, on a vu Nuit Debout au début, on a vu Gilets jaunes. En Espagne, on a vu Les Indignés. En Belgique, il y a eu aussi Les Indignés avec Occupied Belgium. Bref, les citoyens veulent se faire entendre. Alors, la question qu'on va se poser, c'est comment les collectivités, comment les entreprises, et comment les collectivités, les entreprises et l'ensemble des acteurs peuvent intégrer justement ces nouvelles aspirations citoyennes. Donc, pour cela, nous aurons Mathieu Rios qui va intervenir, qui est chargé de mission implication citoyenne et transition écologique à la ville de Malonnais. Bonjour, merci. Nous avons Pierre Guyard qui va représenter donc Engie Cofeli et qui est directeur des relations institutionnelles.
Bonjour à toutes et à tous.
Paula Birne qui est directrice du management durable et des réseaux au CSR Europe. François Moisan, qui est directeur exécutif stratégie, recherche et international à l'ADEME.
Bonjour.
Et Michel De Vries-Hergeberg, qui est coordinateur du réseau EVAAC. Alors, premier intervenant, ce sera Mathieu Rios, en charge de la mission donc implication citoyenne et transition à la ville de Malonnais. Juste comme ça pour une présentation, hein, la ville de Malonnais, c'est 6000 habitants. C'est une ville qui est labellisée Citergie et territoire, et qui se structure depuis plus de 10 ans en territoire post-carbone. Alors, dans votre présentation, vous présentez comme le petit poussé de la transition énergétique.
Ah oui, je te prends le...
et vas-y, du coup, vas-y,
reprends.
Tu me coupes la parole, c'est ça? Et voilà, le petit poussé devient déjà grand. La ville mène ainsi un processus donc de transition multiple. Et Mathieu, on se connaît, donc je me permets de te tutoyer. Aujourd'hui, en effet, il y a une expérimentation que tu vas nous présenter. Mais avant que tu la présentes, est-ce que tu peux nous préciser comment cette citoyenneté écologique et cette exigence de prendre en compte la citoyenneté écologique s'est imposée à la ville de Malonnais ?
Avec plaisir. Merci. Bonjour à tous. Je remercie Comité 21 et Julien Goupil pour cette invitation. Effectivement, à Malonnais, qui est une petite commune dans une grande métropole, enfin une petite métropole, la métropole de Rouen-Normandie, qui représente 300 000 habitants, de 71 communes, donc la dynamique des métropoles actuellement. On est une petite ville qui a voulu prendre en main les enjeux écologiques par la force des choses, en fait, sans forcément avoir un bagage de militantisme écologique à la base, mais plutôt une volonté de toujours performance des services de la ville auprès de ses habitants dans sa gestion de la ville au jour le jour. Et il y a une dizaine d'années, même un peu plus maintenant, on rentrait dans des difficultés qu'ont connues pas mal de communes sur la baisse des dotations, la baisse de revenus des ménages. On avait la hausse des dépenses de personnel, on avait des hausses de dépenses d'entretien de nos bâtiments municipaux, donc ce qui était un petit peu au détriment de la qualité de nos services. Et là, la mairie a réagi en créant un comité éco-citoyen, avec, en associant en fait les élus qui étaient eux-mêmes des citoyens et les agents pour essayer de trouver des solutions. Et dans les solutions qu'on a trouvées à cette époque-là, c'était préserver, pour préserver notre service public, c'était s'engager vraiment à conserver notre patrimoine et réduire nos dépenses à venir. Donc on s'est engagé à fond dans la rénovation énergétique de notre patrimoine. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans l'écologie, c'est comme ça qu'on est rentré avec Citergie.
Juste quand tu dis « nous », c'est collectivement, et c'est à l'occasion, me semble-t-il, une forme d'état généraux à l'échelle du territoire. Hein, et juste une précision là-dessus. Et ensuite, est-ce que tu peux nous présenter justement cette initiative et l'articulation qu'elle a pu prendre ?
Oui, alors à cette époque-là, on était surtout quand même avec des agents et des élus, plus que dans des grands états généraux impliquant les citoyens, bien qu'il y ait eu des réunions publiques, si je ne me trompe pas. C'était quoi ta deuxième question ?
Et ensuite, la présentation du dispositif du coup, que vous avez engagé.
Donc, c'est poursuivi quelque chose sur lequel je ne vais pas m'étaler, où on est entré dans cette démarche écologique. Et dans les dernières années, on s'est rendu compte qu'après avoir rénové certains bâtiments, après avoir engagé certaines choses, il fallait qu'on emmène aussi l'ensemble des citoyens pour qu'ils puissent déjà s'impliquer dans les usages des services et des bâtiments qu'ils utilisaient, puisque on avait par exemple, je prends souvent l'exemple de notre gymnase qu'on a rénové. Notre expertise énergétique nous promettait une baisse de 60% des coûts énergétiques, et l'usage finalement nous met en décalage avec ça. Donc il fallait qu'on puisse avoir des utilisateurs qui soient impliqués. Et d'une manière plus large, on a souhaité continuer notre politique de résilience sur beaucoup d'autres sujets qu'on avait déjà engagés. Donc ça peut être la ville comestible, la résilience alimentaire, la qualité de service des repas, etc. La préservation de la biodiversité, parce qu'on est une ville périurbaine avec une campagne assez forte autour. Donc pour faire tout ça, on ne pouvait pas le faire tout seul, et on a souhaité trouver une manière de faire pour associer les citoyens, pour apporter des idées. Parce que nous, agents, donc on est 100 agents, on est 100 ambassadeurs du développement durable sur notre commune, mais on ne peut pas avoir toutes les clés, et les élus non plus. Donc on est allé chercher un dispositif pour aller donner de la capacité aux citoyens et leur montrer qu'il était possible de proposer des innovations et des projets à la ville pour qu'elles puissent se les approprier et les accompagner d'un point de vue communautaire, au niveau vraiment de la commune. Quoi.
Alors concrètement ?
Concrètement ? On a mis en place un défi sur 3 mois qui s'appelle le défi de la transition Pensée Quartier, qui est en fait une modalité sur la commune pour impliquer les habitants sur le changement de comportement. On s'est inspiré pour ça des techniques de changement de comportement, de la psychologie sociale, de la théorie de l'engagement. On s'est entouré de différents partenaires qu'on avait déjà eu par le passé, notamment l'ADEME, qui a été un de nos plus grands partenaires pour construire cette méthodologie nouvelle qu'on a mis en place. Et on a créé un dispositif qui est un dispositif d'implication des citoyens dans la transition de la ville. Sur 3 mois, on leur a demandé, donc on a eu une centaine de participants sur 6000 habitants, c'est quand même beaucoup sur un appel à candidature qui a duré 2 mois. Donc on a eu une centaine de personnes qui se sont mobilisées sur les différentes thématiques de la transition, hein, donc l'eau, l'énergie, la préservation de la biodiversité, la consommation responsable, le bien-être, etc. Et sous une forme de défi, on les a accompagnés vers d'un changement individuel, avec un départ sur du diagnostic, sur de la prise en compte de savoir d'où on partait, de rencontres et d'expérimentations, et au fur et à mesure sur comment on fait pour changer d'échelle. Parce qu'une fois qu'une personne a accepté le diagnostic et a pris en connaissance de méthodes qui permettent de le dépasser pour réussir à trouver des solutions, on a posé la question de dire maintenant, comment est-ce qu'on fait ensemble, communes, agents, élus, citoyens, pour emmener nos 6000 habitants dans cette méthodologie. Et on leur a demandé de proposer des projets que la ville va accompagner. On est en train de développer un nouveau service qui est un service d'accompagnement de projets citoyens. On ne sait pas trop où on va parce qu'on ne sait pas comment on va le mener. On n'a pas encore toutes les clés et tous les outils. Mais aujourd'hui, on a 9 projets qui sont proposés sur la ville avec des citoyens qui, il y a encore 6 mois, n'étaient pas engagés dans la politique de la ville en tant que telle. Et avec ces premiers citoyens engagés, on va attirer d'autres personnes, parce que la plupart des projets vont se formaliser par des associations ou par des actions collectives, en tout cas, qui vont apporter d'autres personnes avec elles. Et petit à petit, on a l'ambition de créer dans les prochains mois ce qu'on a appelé le Conseil de la transition et de la résilience locale, qui va être une instance qu'on va dessiner ensemble en co-construction, parce qu'aujourd'hui, de la même façon, on n'a pas encore toutes les clés, on apprend toujours en marchant. On va créer cette nouvelle institution communale qui sera un lien, on l'espère, entre l'ensemble des citoyens qui créent la commune aujourd'hui.
Donc là, on a bien vu comment la collectivité cherchait à faire émerger comme ça cette conscience citoyenne et cette implication du citoyen. Est-ce que cette initiative s'est suivie aussi d'une évolution de la gouvernance et de l'état d'esprit, j'ai envie de dire, des agents et des élus ?
Bah, c'est même un peu plus fort, c'est-à-dire que cette prise de conscience et ce changement de gouvernance, il a eu lieu avant, dans les 10 premières années où on est arrivé sur des nouveaux projets avec notamment le Citergie et TEPCV et l'accompagnement de l'ADEME. C'est que là, cette gouvernance, elle s'est mise dans une administration communale d'une centaine d'agents avec une vingtaine de conseillers municipaux. On a été embarqué dans une méthodologie en mode projet et en méthode agile où on a été obligé d'apprendre en faisant des erreurs, en revenant sur ce qu'on faisait. Et on a forcément amené une nouvelle forme de gouvernance en interne sur la mise en place de nouveaux projets. Et donc on s'est formé en interne, on continue à se former encore aujourd'hui. Nos électriciens aujourd'hui, ils sont formés à l'entretien photovoltaïque par exemple. Et on continue chemin faisant comme ça. Et cette capacitation à la fois des agents et des élus, on a aujourd'hui l'ambition de le faire aussi avec nos citoyens.
J'ai envie de dire peut-être deux petites questions. C'est est-ce que la dynamique, là, c'était 100 citoyens qui se sont impliqués. Est-ce que tu as le sentiment qu'on va réussir à catalyser cette dynamique-là et que ça va donner le goût à d'autres citoyens de s'engager? Et si tu avais un ou deux conseils, peut-être même trois, à donner aux représentants des collectivités qui sont ici présents pour intégrer sereinement, j'ai envie de dire, cette citoyenneté écologique, quel serait-il ?
Plus facilement répondre à la première question. On a un bon feeling, on va dire. On a un très bon feeling parce que sur la centaine de personnes qui se sont engagées, elles ont présenté des projets qu'elles portent vraiment, on sent qu'elles le portent dans leur cœur. Et aujourd'hui, j'ai déjà des retours quand je demande un petit peu, est-ce que vous voulez prendre un prochain rendez-vous pour qu'on puisse commencer l'accompagnement, etc. En fait, j'ai déjà des retours. Oui, on a commencé, on a déjà pris contact avec tel organisme, avec tel... ils sont déjà dans le faire, donc on est plutôt très confiants. Et en plus de ça, les projets entre eux, il y a 9 projets aujourd'hui, ils sont interconnectés les uns les autres, nécessairement, comme l'écologie d'ailleurs, comme tous les items de la transition. Donc oui, on est assez confiants, on va forcément en perdre quelques-uns en route, c'est normal, parce qu'il y a une question aussi de temps disponible et d'engagement. Mais on va aussi en accueillir des nouveaux, ça j'en suis certain. Quant aux conseils... le premier conseil, c'est surtout d'essayer, c'est de faire des choses. Il faut faire des tests, faut sentir ce qu'il y a sur le territoire, saisir toutes les occasions. C'est ce que j'ai retenu aussi de Kingersheim, qui est venu nous visiter, avec qui on a pu avoir des échanges. Saisir toutes les occasions, toute remarque, toute pétition, toute verbalisation en fait d'une problématique sur un territoire, notamment un territoire communal qui est une échelle humaine sur laquelle il est vraiment non pas facile, mais il est plaisant d'intervenir parce qu'on est connecté avec tout le monde. C'est très facile de rentrer en contact avec l'ensemble des parties prenantes. Il faut saisir toutes les petites opportunités et être vraiment opportuniste au sens noble du thème pour aller saisir toutes les opportunités pour pouvoir rentrer dans une transformation.
Je crois qu'on a bien illustré ici deux éléments qui ont été évoqués ce matin, c'est-à-dire la démocratie de l'agir qui était présentée par Loïc Blondiot et également Bettina qui évoquait la cité comme espace naturel de l'émancipation citoyenne. Nous, chez Empreinte Citoyenne, c'est une farouche conviction que l'on a, hein, c'est du local au global Et on pense clairement que c'est par les territoires. C'est pour ça que nous, on travaille à l'élaboration aujourd'hui d'un label ville citoyenne. Mais l'importance du territoire, mais le territoire jamais seul. Le territoire, il a besoin évidemment des parties prenantes. Il a besoin des acteurs, il a besoin des entreprises. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une opportunité hein, qui est la responsabilité sociétale des entreprises que j'évoquais tout à l'heure et qui implique évidemment les parties prenantes économiques à dépasser leur rôle d'acteurs éco pour devenir des acteurs sociaux également. Et du coup, on va essayer d'apporter une illustration de cette situation avec l'intervention
C'est toujours pareil avec les entreprises, elles veulent s'accaparer les choses. Mais alors pour rebondir sur votre interpellation, je crois qu'effectivement au-delà de la boutade, ce qui anime notre activité, on a un peu la chance d'être des acteurs de cette transition écologique et environnementale et de chercher en tant que bon ingénieur que nous sommes à trouver des solutions pour passer de la volonté politique aux actes concrets, notamment sur les territoires. Et clairement cette démarche, on l'amène à côté de Malonnet, il y a une autre ville qui s'appelle Marom, un voisin qui est pas très loin, avec lequel, par exemple, nous avons réalisé un réseau de chaleur dans une ville existante, et ça a été très compliqué, mais c'était bien une ambition politique du maire et de sa majorité, et quelque part un acteur économique qui a répondu et qui est passé aux actes. Et là, lorsqu'on passe aux actes en tant qu'ingénieur, ben voilà, on avance, quoi. Sauf que, à un moment, on rencontre les citoyens. On rencontre des hommes, des femmes, des acteurs économiques, des commerçants, des artisans qui se posent des questions sur la durée des travaux, qui se posent des questions sur la nature énergétique qui va leur être apportée, sur le type d'énergie justement que nous allons utiliser, sur d'où va venir, puisque c'était en l'occurrence une chaufferie biomasse, d'où va venir la biomasse qui va être utilisée, etc. etc. Cette démarche, bien évidemment, nous l'avons eue et nous l'avons précédemment eue avec la collectivité locale, mais lorsque vous arrivez dans une rue, eh bien, il va falloir expliquer effectivement de nouveau cette ambition nécessaire de transition écologique aux hommes et aux femmes qui vivent dans cette rue. Et là, on est directement impacté par la nécessité effectivement de faire évoluer nos démarches pour répondre à ces attentes citoyennes, pour à la fois faire de la pédagogie, c'est pas toujours facile pour les techniciens que nous sommes, mais également expliquer effectivement les enjeux économiques, écologiques, l'aspect mutualisation, pourquoi un réseau de chaleur peut être plus intéressant que une livraison électrique, voire de gaz, à l'entrée de la maison, c'est que voilà, on mutualise, parce que la chaleur, on va la produire de façon centralisée, et ceux qui l'utilisent dans la journée ne sont pas toujours les mêmes que ceux qui l'utilisent la soirée, le matin ou la nuit. Donc il y a une puissance moindre, et donc quelque part une consommation moindre sur le territoire, donc moins de pollution, etc. etc. Enfin, c'est toutes ces démarches que nous avions l'habitude d'expliquer à nos interlocuteurs entreprises. On travaille bien sûr avec les industriels, avec les gens qui gèrent les bureaux et avec les collectivités locales par la force des choses, mais que nous n'avions pas historiquement l'habitude d'expliquer aux citoyens. Et ces citoyens, ils sont, vous en êtes la preuve, les uns et les autres, organisés avec des associations qui défendent l'intérêt citoyen, l'intérêt écologique, parfois des intérêts un peu moins nobles, mais voilà, tout le monde est respectable dans cette démarche et il faut, entre guillemets, savoir expliquer, parfois se confronter, mais en tous les cas respecter, ce que vous disiez, l'ensemble des parties prenantes que nous avons pour réaliser ces projets qui, par ailleurs, nous apparaissent de bonne aloi. Bon, après, on n'a pas la science infuse, comme dirait l'autre, mais on essaye de l'appliquer quand même.
Vous parliez de pédagogie, c'est-à-dire de l'explication. Ça évoque une interrogation sur la temporalité. Parce que, me semble-t-il, qu'il y a deux grandes problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Il y a la problématique de l'acceptabilité du projet, et ensuite, il y a la problématique de l'usage. Du coup, ce dialogue ce dialogue entre l'entreprise et le citoyen, déjà, est-ce qu'il est frontal entre l'entreprise et le citoyen, ou est-ce qu'il y a des intermédiaires, et là, le territoire intervient-il? Et ensuite, à quel moment intervient-il?
Alors effectivement, si je reprends l'exemple du réseau de chaleur, c'est clairement et tout d'abord l'ambition politique qui fera ou pas la réussite du projet. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas dans une ville en disant « Coucou, c'est nous, on va vous installer un truc là qui est pas mal, avec une chaufferie biomasse, un peu de solaire ». Non, c'est un débat politique qui est généralement soit un programme pour un maire, et il va y avoir quelques programmes qui vont être présentés dans pas très très longtemps. C'est effectivement une constatation d'un air relativement pollué dans les villes, et malheureusement, malheureusement les métropoles subissent ces évolutions de pollution, c'est un certain nombre d'ambitions, de partage, c'est la rénovation urbaine qui là aussi va permettre de faire baisser les consommations en rénovant les immeubles et je reconnais quelques acteurs dans la salle, cette rénovation urbaine, il faut à la fois l'expliquer aux bailleurs sociaux, généralement qui portent la voix de leurs locataires, mais, et ce n'est pas le plus simple, aux copropriétaires, qui sont des hommes et des femmes qui décident du devenir de leur copropriété. Et là aussi, les exemples d'explications longues, nécessaires, et le passage aux actes est particulièrement complexe. Donc la volonté politique d'abord, la capacité de trouver des solutions techniques, mais au-delà de trouver des solutions techniques, la capacité de les expliquer aux uns et aux autres, avec les mots que les uns et les autres peuvent comprendre, peuvent entendre, pour, entre guillemets, fédérer les acteurs, éviter les recours qui sont aussi devenus un peu systématiques dans la démarche, parce que je pense, et on y reviendra peut-être un peu plus tard, je pense que la notion de détecter d'où vont venir les problèmes, quelles sont les conséquences parfois infinitésimales, c'est l'effet papillon dont on parle de temps en temps, parfois infinitésimales, mais qui vont générer un mécontentement qui, lui, peut grossir si on ne le gère pas. Et nous, entreprises, on n'est pas toujours les meilleurs pour le gérer, parce qu'il y a toujours cette suspicion du grand méchant capitaliste face aux citoyens désarmés. Donc là, c'est bien la collectivité qui doit aussi, entre guillemets, jouer son rôle, ou les administrations qui nous accompagnent. Notre collègue de l'ADEME interviendra sans doute dans ce domaine. Il faut effectivement des tiers, il faut des associations qui expliquent peut-être l'intermédiation citoyenne est nécessaire parce que voilà, chacun défend ses prérogatives, défend la capacité de répondre à cette ambition de transition énergétique, mais chacun aussi les défend avec ses propres intérêts.
Si je comprends bien, il n'y a pas en effet aujourd'hui, compte tenu de la dimension un peu récente de cette inclusion citoyenne, il n'y a pas de règles fondamentales et établies. Pour autant, est-ce que le système, l'organisation de l'entreprise s'est adapté ou envisage de s'adapter à cette nouvelle tendance ?
Alors, c'est une bonne question. Et là, effectivement, clairement, on n'avait pas préparé. C'est une bonne question. Et là, clairement, on s'est rendu compte, par la force des choses, qu'on n'a pas intérêt à avancer tout seul à répondre à un appel d'offres et à trouver la meilleure solution. La démarche est effectivement de solliciter des acteurs. Je pense aux entreprises, les start-up qui se positionnent dans la civic tech, c'est-à-dire effectivement détecter sur les réseaux sociaux, sur les réunions publiques, sur qu'est-ce qui va faire à la fois l'opportunité et le risque aussi de ces actions de transition énergétique. Je pense à la pédagogie citoyenne. On participe de plus en plus dans les collectivités dans lesquelles nous agissons au sommet du développement durable pour faire visiter des installations, rassurer une chaufferie collective. Voilà, ce n'est pas une petite installation. Elle peut, au regard de certains, présenter des risques. Donc il faut expliquer et effectivement abaisser la défiance que peuvent générer ces installations. Donc il y a un travail de pédagogie, d'accompagnement, de préparation, de détection des bruits, des signaux faibles, comme on dit, et des signaux qui deviennent parfois de plus en plus forts. Et ça, on va le faire avec des acteurs partenaires pour effectivement trouver les bonnes solutions au bon moment et avec les bons mots pour les présenter.
Et pourquoi pas ne pas attendre même le signal faible et anticiper et être proactif sur tous ces sujets-là.
Tout à fait.
On reviendra après, on aura d'autres interrogations. On va passer à la troisième intervenante, Paula Birne, qui est donc directrice du management durable et des réseaux du CSR Europe. Juste pour information, le CSR Europe, donc premier réseau européen d'entreprises en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Vous partagez les pratiques en matière de RSE. Et on le voit bien, aussi bien pour le territoire que pour l'entreprise. Aujourd'hui, cette inclusion citoyenne est encore à l'étape expérimentale, d'où l'importance aussi du partage d'expériences et de la mise en place du réseau. Et vous êtes un réseau d'entreprises. Et j'ai une première question déjà qui est un peu piquante peut-être, mais la citoyenneté écologique est-elle considérée comme un levier de croissance pour les entreprises ?
Hello, thank you very much.
Je vous remercie d'abord de m'avoir invité de Bruxelles, puisque je suis venu de Bruxelles. Vous savez que les origines de CSR Europe, nous avons voulu créer un réseau où les différentes parties prenantes, donc ceux qui exercent les responsabilités écologiques et ceux qui les subissent, en quelque sorte, puissent travailler ensemble. Donc, il y a deux aspects. Vous parlez de un levier de croissance pour une entreprise, le fait d'être socialement responsable. Est-ce que cela peut aider ou favoriser la croissance de l'entreprise? Par ailleurs, une entreprise doit nécessairement réagir aux attentes de la société, aux attentes sociétales. Il y a trois domaines dans lesquels nous travaillons. D'abord, tout ce qui concerne le talent, l'emploi, la jeunesse, enfin, le fait de permettre aux ressources humaines d'être optimisées et d'attirer les meilleurs talents et de permettre à chacun de s'épanouir, assurer des... Et cela, ça prend une importance croissante. Pourquoi ? Parce que ici, ce sont ces jeunes, ces jeunes cerveaux, c'est ceux qui vont nous aider à assurer cette transition. Donc ça, c'est déjà assez important.
Also the point of...
Et puis, une entreprise doit aussi reconnaître son rôle vis-à-vis de la société. Elle va avoir un impact sur la vie des hommes et des femmes, un impact extrêmement local sur les collectivités, quelle que soit la taille des entreprises d'ailleurs. C'est vrai pour les multinationales comme pour les PME. Et donc c'est un défi auquel les entreprises doivent répondre. Ça a des dimensions économiques, mais les entreprises ont une responsabilité en tant qu'acteurs à part entière vis-à-vis de la société. Donc oui, c'est un très bon levier et de plus en plus.
Pour cela, ensuite... Concrètement et pratiquement, comment le réseau soutient aujourd'hui ses adhérents et donc les entreprises à intégrer cette citoyenneté écologique? Est-ce que vous avez déjà trouvé la baguette magique? Peut-être si oui, faites-nous en profiter. Donc la citoyenneté écologique et plus largement, évidemment, le citoyen hein, dans la gouvernance RSE.
Alors, tout ça, c'était une réponse apportée dans les années 90, en 92-93. D'ailleurs, beaucoup d'organisations ici présentes ont été créées à cette époque. L'objectif, c'était de générer de l'expertise dans le domaine de la RSE. Qu'est-ce que c'est et comment répondre aux défis de la RSE? Donc l'objectif, c'est déjà de se retrouver au sein des entreprises, puisque c'était extrêmement parcellaire à l'époque et c'était des départements très... peu doté en ressources humaines, c'était des compétences encore très nouvelles à l'époque. Et donc, au fil des années, les entreprises elles-mêmes ont évolué, et nous, avec elles. Et d'abord, il s'agissait de créer un tissu social au sein même des entreprises. Donc, ce n'est pas simplement une question de communication, de ressources humaines, ou que sais-je. L'objectif, c'était vraiment... De généraliser ça dans tous les domaines, les achats, les financiers, la lutte contre les discriminations, les pratiques fiscales qui se doivent d'être responsables. En fin de compte, de nombreuses dimensions des activités des entreprises sont touchées et il faut que les partenaires se mettent également à la page. Quand on parle de gestion de la durabilité, eh bien c'est exactement ce que doivent faire les entreprises en interne. Par exemple, nous organisons des événements comme celui-ci, des ateliers, des tables rondes où nous pouvons partager les bonnes pratiques et les bonnes solutions qui fonctionnent. Et puis, ce qui s'inscrit dans notre stratégie 2030 qui sera lancée au mois de mai, élaborée par le Conseil de CSR Europe au cours des trois dernières années, nous avons consulté nos membres et au-delà. Et donc, nous voulons construire des plateformes collaborative, puisque nous reconnaissons que les entreprises ont un rôle de leader à jouer dans ce domaine, et d'ailleurs nous allons bien le souligner à notre assemblée en mai, mais il faut aussi reconnaître le besoin d'autres expertises. Déjà, il faut une coopération transsectorielle entre les entreprises, avec des organisations locales et territoriales, avec des PME, avec la société civile en particulier. Donc, comme l'a bien expliqué Angie, il faut vraiment des corps intermédiaires pour vraiment travailler ensemble. L'objectif, ce n'est pas que moi j'arrive en donnant une solution et en l'imposant à tous. C'est beaucoup plus complexe. Il faut en fait créer une sorte de toile, un sorte de tissu. Notre réseau rassemble 41 partenaires nationaux. Par exemple, en France, on a la Fondation FACE. Et ce sont des partenaires partout en Europe, même à l'extérieur de l'Union européenne. Ce sont des petites organisations similaires à la nôtre, mais au niveau plus local. Donc nous avons un bon réseau de partenaires. Nous couvrons environ 10 000 entreprises sur le vieux continent. Mais bien sûr, notre petit secrétariat à Bruxelles ne peut pas tout gérer. Mais c'est grâce à notre réseau, le réseau c'est le fil conducteur, que nous arrivons à échanger, à partager les enseignements que nous tirons de nos activités, à inciter tout le monde à travailler ensemble et trouver ensemble les solutions. Et c'est vraiment une dimension cruciale puisque, comme ça a été répété maintes et maintes fois ce matin, le temps presse. Si nous voulons réaliser les ODD d'ici à 2030 et assouvir notre quête de développement durable, nous devons sortir des sentiers battus, trouver des partenaires auxquels nous ne serions pas attendus à engager de nouvelles coopérations.
Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fin de compte, l'inclusion citoyenne emmène l'entreprise à revisiter son fonctionnement et à s'ouvrir vers de nouveaux acteurs et du coup à ouvrir de nouvelles perspectives. Comme vous le disiez, vous êtes un réseau et du coup vous partagez des expériences. Peut-être avez-vous quelques expériences significatives. Déjà une première question, est-ce qu'il y a des spécificités entre les pays européens? Et ensuite, quelles sont les expériences qui, vous semble-t-il, ont été des vrais leviers pour faire émerger cette citoyenneté écologique dont on parle?
Je ne suis pas sûr d'avoir compris la deuxième partie.
Particularité entre les pays, pour la première question. Et ensuite, quel est le bon exemple ou un exemple très concret d'une entreprise qui a pu porter une action, qui a fait émerger, qui a développé cette citoyenneté écologique.
Pour répondre je pense qu'il y a à la fois des similitudes et des différences en Europe. Il n'y a pas une réponse et une seule européenne. L'objectif est de trouver des moyens de travailler ensemble, quels qu'ils soient. Mais bon, il y a beaucoup d'exemples que je pourrais vous nommer. Je vais me concentrer sur l'éducation et la pédagogie. Nous avons beaucoup travaillé à cet effet au cours des dernières années, et notamment sur la question du chômage des jeunes, et ce pour deux raisons. Et de nombreux dirigeants d'entreprises se sont réunis parce qu'ils trouvent qu'il y a un vrai écart entre le système éducatif et le marché de l'emploi. Donc à un niveau très élevé des entreprises, on a vu les entreprises se réunir au niveau européen. Mais il a aussi fallu aller vers l'échelon local pour que ces modifications puissent être mises en œuvre dans la réalité. Dans une situation, par exemple dans la commune où je vis à Bruxelles, 27% des 18 à 25 ans ne sont ni en situation d'emploi, ni de formation, ni à l'université. Ils ne font rien et on ne leur donne pas les moyens de faire quelque chose. Et puis, donc vous avez ça d'une part, et d'autre part, vous avez des entreprises qui n'ont pas les jeunes équipés des compétences dont ils ont besoin, ils veulent recruter des jeunes, mais ils ne trouvent pas, etc. Donc il y avait un vrai écart entre les compétences des jeunes et le marché du travail. Il y a eu des très bons exemples, par exemple Engie, qui a été un des leaders, il y a aussi Solvay, Samsung. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Molenbeek, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Molengeek. Ce que je veux dire, c'est que nous avons fait en sorte que des grandes entreprises technologiques comme Samsung et d'autres puissent amener leur savoir-faire dans ces zones où les gens vivent et n'ont aucune opportunité, aucune possibilité. Les gens ne se rendent même pas compte qu'ils peuvent avoir des ambitions, qu'ils peuvent apprendre à coder, qu'ils peuvent se former à quelque chose, trouver un emploi. Ils n'osent même pas y croire qu'ils peuvent trouver leur place dans la société. Ils ont l'impression qu'ils ont été écartés de la société de manière définitive, qu'ils n'ont aucune perspective et que personne ne veut d'eux. Donc c'est une situation regrettable, mais elle peut s'inverser. Et voilà, je pense que c'est un bon exemple qui illustre ce que vous avez dit, mais je pourrais également parler d'une autre plateforme que nous avons créée, les femmes dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Par exemple, Johnson & Johnson, un autre membre cofondateur au même titre que Engie, est venu nous voir. Et l'objectif était d'atteindre 1 million de filles âgées de 13 à 20 ans afin de les impliquer activement dans la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques afin qu'elles y fassent carrière. Et nous avons vraiment besoin de ces citoyens, de ces étudiants. Et d'ailleurs, c'était très bien que j'ai vu Claire Aignel dans le panel précédent. Mais bon, voilà. On vit actuellement sur 3 planètes, mais ce dont nous avons besoin pour vivre sur notre planète, c'est des scientifiques, des experts en technologie, en ingénierie, en mathématiques, et il faut absolument que tous ces gens apprennent et se forment au développement, à la recherche, à la technologie pour avoir les compétences dont nous avons besoin. Donc Johnson & Johnson voulait atteindre 1 million de filles. Ça n'a pas marché parce qu'on a essayé énormément d'initiatives tout seul et ça n'a pas vraiment fonctionné. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a travaillé pendant 6 mois avec nos collègues là-dessus. On a conçu un plan et on a trouvé d'autres entreprises dans le réseau qui avaient des objectifs semblables. Puisque, bon, souvent les entreprises ont leur objectif et il faut essayer de les inciter à travailler ensemble à l'atteinte du même objectif. Et ce n'est pas toujours hyper facile et ce n'est pas toujours la façon de faire la plus adaptée. Mais ces entreprises ont des objectifs qui sont connexes, qui sont similaires. Donc vous pouvez toujours suivre votre objectif. Bon, en l'occurrence, 1 million de filles, 500 garçons et filles, ou peu importe. Travailler sur les technologies du 21e siècle au service de l'éducation, etc. Et vous pouvez trouver des points de collaboration et travailler ensemble pour atteindre de meilleurs résultats.
Merci pour ces propos et puis cette sincérité dans le propos, c'est-à-dire que il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas, mais je pense que c'est tout l'enjeu aussi de cette démarche d'inclusion citoyenne, c'est de s'inscrire dans la résilience et dans ce souci de transparence et de sincérité. Je vous propose, parce qu'on a parlé là d'entreprise, on a donné la parole à une collectivité, à une entreprise, à un réseau d'entreprises RSE, il nous semblait intéressant aussi de donner la parole justement à l'ADEME, hein, qui coordonne, j'ai envie de dire, et met ses capacités d'expertise et de conseils à disposition et des entreprises et des collectivités locales. Du coup, puisqu'on s'est préparé un petit peu, François, avant, 3 questions que je vous pose tout de suite. Comme ça, je vous laisse faire un petit exposé de 10 minutes. Selon vous, quel rôle les citoyens ont-ils à jouer dans la transition écologique? Ont-ils un rôle à jouer? J'espère que vous allez dire oui, quand même. Pouvez-vous nous dire comment les citoyens perçoivent les mesures menées en faveur du changement climatique? Et quelles sont les conditions pour rendre ces politiques publiques acceptables? Allez, vaste projet, vous avez 10 minutes, monsieur Moison.
Merci. Alors, votre première question, est-ce que les citoyens ont un rôle à jouer? Évidemment, oui. Alors, on le voit bien par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Dans leur logement, ils ont un rôle, ils ont des choix qu'ils peuvent faire dans leur déplacement, les transports. Merci. Dans les transports, on le voit bien également dans les produits qu'ils achètent, qui ont plus ou moins de carbone, donc on voit qu'il y a une marge de choix. Et puis ce matin, on a entendu, par exemple, et c'est peut-être un peu nouveau, un étudiant, le choix de l'entreprise où il aura travaillé. On peut penser aussi au choix de l'épargne, quand il y aura des instruments qui permettront de choisir. Donc on voit qu'il y a une multitude de choix, mais on voit bien à travers ce que je viens de dire que ça dépend aussi de l'offre qui existe et de l'information sur cette offre. Donc il y a une multitude de paramètres et ce n'est pas qu'une question de comportement au sens un peu comme on l'entend souvent. Donc pour nous, l'ADEME, c'est d'essayer effectivement de mettre à disposition des citoyens ces informations, d'élargir la gamme de l'offre qui peut leur être proposée et puis de pouvoir consulter sur qu'est-ce que ces citoyens sont prêts à faire, comment ils perçoivent les changements qui doivent s'opérer. Et c'est pour ça que je voulais centrer mon propos aujourd'hui sur les résultats d'une enquête que nous avons conduite au mois de juillet dernier, que nous conduisons tous les ans depuis près de 20 ans maintenant, auprès d'un échantillon représentatif des Français pour connaître leur opinion sur la problématique du changement climatique. Alors, une première slide, j'ai fait mes slides en anglais pour la traduction, je l'ai commenté en français. Donc, vous voyez, depuis près de 20 ans, on les interroge. Alors, il y a une première question, c'est de savoir, finalement, est-ce que les Français se sentent concernés? Est-ce que le changement climatique, c'est quelque chose qui les préoccupe? Et vous voyez sur ces résultats, en fait, que à la question, est-ce que pour vous, c'est une certitude pour la plupart des scientifiques, ou est-ce que c'est une hypothèse, ce changement climatique, sur lequel tous les scientifiques ne sont pas d'accord? On a encore, quand même, une part que je pourrais qualifier de sceptique, qui n'est pas négligeable. Et vous voyez là sur le graphique, effectivement, comment il y a eu, à partir de la conférence de Copenhague, et ce qu'on appelait l'époque des sceptiques, cette évolution. Et donc, on voit qu'il y a des ondulations. Une majorité, néanmoins, pense qu'effectivement, les scientifiques sont d'accord. Alors, en fait, cette année, pour la première fois, on a non seulement fait de l'enquête auprès d'un échantillon représentatif de la population, plus de 1500 personnes qui ont répondu, mais on a aussi fait une enquête auprès des chefs d'entreprise en leur posant les mêmes questions qu'à l'ensemble des Français. Alors, l'ensemble de l'enquête est disponible, les résultats sont disponibles sur le site de l'ADEME. J'en ai sélectionné quelques-unes par rapport à notre thématique d'aujourd'hui. Donc, une des questions, alors, des questions étaient, dans le contexte de ce changement de climat, quelles sont les conséquences, que pensez-vous seront les conséquences pour vous dans les 50 ans à venir? Est-ce que les conditions de vie sur Terre vont devenir extrêmement pénibles à cause des dérèglements climatiques? Ou bien est-ce qu'il y aura des modifications de climat, mais on s'y adaptera sans trop de mal? Ou enfin, le changement aura des effets plutôt positifs, par exemple pour l'agriculture et les loisirs? Et donc là, vous voyez qu'il y a des deux tiers des Français, presque, qui répondent, qui se disent, les conditions de vie sur Terre vont devenir extrêmement difficiles. Donc, ils sont vraiment conscients, effectivement. Et il y en a une faible minorité qui pense qu'on pourra s'y adapter. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est que les chefs d'entreprise sont, en plus grande partie, pensent qu'on pourra s'y adapter un peu plus facilement. Une autre question portait sur les options. La question qui était posée, c'était parmi ces quatre opinions, quelle est celle qui se rapproche le plus de la vôtre? La première, c'est qu'il faudra modifier de façon importante nos modes de vie pour empêcher le réchauffement et le changement climatique, ou le changement climatique. La deuxième option était, c'est aux États, bon, c'est pas à moi, c'est aux États de réglementer au niveau mondial le réchauffement ou le changement climatique. Autre option, il n'y a rien à faire, le réchauffement est inévitable, donc une position fataliste, ou encore le progrès technique trouvera des solutions et il pourra empêcher le réchauffement. Donc là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une majorité quand même de Français qui pensent qu'il faudra modifier de façon profonde les modes de vie. Donc ils ont bien conscience de cet enjeu de changement de comportement. Et quand on regarde les entreprises, elles sont encore plus, la proportion des chefs d'entreprise est encore plus importante à penser que ce changement des modes de vie sera inéluctable. Alors, on a posé, excusez-moi pour ce tableau qui est peut-être un peu, mais il est riche d'enseignements. On a testé effectivement un certain nombre de questions sur la position des Français vis-à-vis de certaines mesures de politique publique qui sont censées lutter contre le changement climatique. Et je voudrais rappeler que ces questions ont été posées au mois de juillet, donc avant les épisodes des Gilets jaunes. Donc, je dis ça parce que certaines des questions. Donc, vous avez en première colonne un certain nombre de mesures qui sont proposées. Et puis, sur la première colonne, c'était il y a un an, 2017. Après 2018, quel est le pourcentage de Français qui se disent plutôt, qui pensent que cette mesure est plutôt souhaitable, très souhaitable ou plutôt souhaitable? L'évolution en un an. Et puis ensuite, vous avez les réponses des chefs d'entreprise. Et puis, dans la dernière colonne, l'écart entre les chefs d'entreprise et la population en général. Donc, vous voyez d'abord, d'une manière générale, qu'il y a quand même une adhésion relativement forte. La plupart des mesures rencontrent une adhésion de plus de 50% auprès des Français qui sont plutôt en faveur. Pour autant, quand vous regardez l'évolution entre 2017 et 2018, il y a plutôt une baisse pour pratiquement toutes ces mesures de l'adhésion des Français à ces mesures de politique publique. On ne peut pas s'empêcher de mettre en regard de la, du manque de confiance sur les politiques de la part des Français. Et d'une manière générale aussi, on voit que les chefs d'entreprise sont encore plus favorables à ces mesures que les ménages en général. Alors parmi les mesures, il y en a certaines qui sont assez consensuelles ou très consensuelles. Réduire le gaspillage alimentaire, par exemple. Développer les énergies renouvelables qui rencontrent une adhésion très forte. Également sur les modes de transport doux. L'obligation de faire des rénovations thermiques dans les logements mis en location, par exemple. Et puis, il y en a certaines qui sont beaucoup moins, qui font beaucoup moins consensus. Alors, il y en a une, c'est la taxe carbone, par exemple, je vais y revenir, qui est une des mesures essentielles, si on veut arriver à changer le climat, à changer l'évolution du climat, la taxe carbone. Et puis, il y en a aussi qui sont très peu... pour lesquels il y a très peu d'adhésion. Alors, je cite celle sur la limitation des vitesses, qui n'est pas là, la limitation à 80 km/h, qui n'est pas une mesure environnementale, mais celle qui consisterait à baisser la vitesse sur autoroute, qui là a un impact sur les émissions. Et puis, la densification des villes, en limitant l'habitat pavillonnaire, qui est là et très, très peu, pour laquelle il y a très, très peu d'adhésion. Et donc, vous voyez que pour toutes, il y a quand même une relative baisse entre 2017 et 2018, et puis les chefs d'entreprise qui, eux, sont plutôt favorables. Alors, ce que je voulais évoquer, c'est cette problématique de la taxe carbone, parce que là, je vous ai montré la réponse moyenne, mais en fait, quand on regarde les réponses qui sont données, on voit une réelle fracture au sein de la population française sur l'adhésion ou la non-adhésion à cette idée de taxer le carbone en fonction des niveaux de revenus, de la localisation géographique, notamment zone rurale, zone urbaine, du niveau d'éducation, des affinités politiques, et aussi de la proximité. Enfin, si les gens ont subi des événements climatiques majeurs, dans ce cas-là, ils sont beaucoup plus favorables à cette fiscalité carbone que s'ils ne l'ont pas subi. Donc, cette taxe carbone, je voudrais rappeler qu'elle était prévue pour être à 70 euros par tonne de CO2 en 2020. Elle a subi une progression et en loi de finances 2018, il était prévu qu'elle continue à augmenter. En 2020, donc 70 euros, ça représenterait par ménage une moyenne de 250 euros par an pour l'ensemble des ménages, avec une partie qui porte sur le logement, chauffage et consommation d'énergie dans le logement, et une partie sur les déplacements. Dans le graphique, la partie sur les déplacements est celle en bleu et en jaune sur le logement. Donc vous voyez en fait qu'un logement... Alors vous avez ici la distribution des ménages avec à gauche les ménages à plus faible revenu, ce qu'on appelle les déciles. Donc il y a 10... Les ménages sont décomposés en 10 tranches. Et à droite, les ménages à plus haut revenu. Alors les ménages à plus haut revenu consomment davantage, donc effectivement, en valeur absolue, le poids est plus important. Mais si vous rapportez le poids de la taxe, de cette taxe carbone de 70 euros en fonction du revenu, sur le graphique de droite, vous voyez que les ménages, le premier décile, c'est-à-dire les ménages qui ont le plus bas revenu, le poids de la taxe carbone est beaucoup plus important et va les impacter beaucoup plus sur leur revenu. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette analyse ? C'est qu'il faut redistribuer la taxe carbone. Et comment la redistribuer ? Vous voyez ici que j'ai évoqué 250 euros... en moyenne pour l'ensemble des ménages. Vous voyez qu'un ménage, si je prends le cas d'un ménage qui est en zone rurale, qui se chauffe au fioul et qui va utiliser un véhicule diesel, il pourrait être amené à devoir s'acquitter pour la taxe carbone elle-même d'un niveau qui est au-dessus de 250, voire 300 euros pour l'année, rien que pour la taxe carbone. Alors qu'effectivement, vous avez sur ici, c'est par zone rurale, ou urbains, les ménages urbains sont beaucoup moins affectés. Donc la solution qui peut être une solution qui concilie la lutte contre le changement climatique et une redistribution et une équité sociale, ce serait une redistribution de cette taxe qui soit dégressive. Et vous avez ici sur ce graphique, sur la partie gauche, les déciles de ménages avec une redistribution dégressive, c'est-à-dire que les ménages de plus bas revenu du premier décile ont un chèque énergie en quelque sorte, ou un, un chèque carbone tous les ans de 400 euros. Et puis, ce montant est dégressif au fil des différents revenus. Et dans cet exemple, on s'est arrêté au 9e décile, 10e décile, c'est-à-dire les personnes les plus fortunées n'auraient pas de redistribution. Pour autant, le poids sur leur revenu resterait très, très faible. Puisqu'il y aurait une baisse du pouvoir d'achat de 0,36% seulement, alors qu'on aurait une augmentation du revenu des ménages les plus défavorisés de 2,4% de pouvoir d'achat. Donc on voit bien qu'à travers cet exemple de la taxe carbone, qu'il y a un moyen de concilier la lutte contre le changement climatique et puis des enjeux sociaux. Alors je termine avec une slide qui est, et je reviens sur l'enquête, parce qu'il me semble que cet élément et ce taux de réponse, nous l'observons depuis plusieurs années, et encore une fois, c'est en juillet 2018, quand on leur pose la question, s'il y a des évolutions fortes de votre mode de vie est nécessaire pour lutter contre le changement climatique, sous quelles conditions est-ce que vous les accepteriez? Et on voit que la réponse qui est l'effort devrait être partagé de façon équitable et juste entre tous les membres de la société, recueille le plus grand taux de réponse, puisque cumulant les deux premières réponses, vous pouvez répondre à deux, on atteint 77%, et vient en second le fait que les efforts doivent être décidés de façon collective, et je veux avoir mon mot à dire dans le processus de décision, qui est finalement aussi le débat qui a eu lieu ce matin sur la participation à la décision. Il est important, néanmoins, ce n'est pas lui qui vient en premier. La première réponse, c'est qu'il faut que ce soit juste et équitable. Et je pense qu'on est face, effectivement, à ce sujet-là, aujourd'hui, à la suite du grand débat. Et donc, les enjeux se situent autour de cette équité, me semble-t-il, et d'une transition juste et solidaire.
Merci pour cet exposé. Je retiens en effet justice, équité, partage, collectif, voilà des mots importants, et ça nous a permis de voir aussi les différents thèmes qui pouvaient favoriser cette mobilisation et cette émancipation citoyenne. Comme je vous l'avais dit, l'idée de la table, c'est de passer du local au global. Alors Michel, tu représenteras le global, hein, avec évidemment le Conseil consultatif européen sur l'environnement et le développement durable. Michel, tu es coordinateur du réseau. Quelle forme d'expression, selon toi, prennent la citoyenneté écologique en Europe? Et comment est-ce que tu parviens à les identifier?
Merci beaucoup, Julien. Merci à Comité 21 de nous avoir accueillis ici. Pour moi, la citoyenneté écologique se manifeste de trois manières. Au niveau local, il y a des initiatives de production d'alimentation ou encore d'énergie locale. Donc ça part vraiment de la base et ça va vers le haut. Ensuite, en même temps, il y a de plus en plus de manifestations dans les capitales, dans les grandes villes, mais aussi dans les villages. Des manifestations pour améliorer notre politique climatique, et c'est vrai notamment en Union européenne, mais pas seulement, c'est vrai partout dans le monde. Et puis troisièmement, on voit aussi se refléter la citoyenneté écologique dans les urnes. Quand on regarde les résultats électoraux des partis « verts » entre guillemets et leur taux de popularité, on voit que ça augmente. Alors on va voir si ça va se manifester aux élections européennes. Il faudra attendre pour voir ça, mais il y a une vraie tendance en la matière. Donc pour moi, voilà, ce sont les trois manifestations de citoyenneté écologique qui se manifestent, qui apparaissent en Europe.
Merci de remettre encore en avant le local. Je retiens trois mots, hein, le local, l'urbain et la dimension politique, hein, qui peut être une expression en effet. Et concrètement, puisque c'est vos missions, quels impacts ont ces nouvelles revendications citoyennes sur les gouvernements et les parlements? Est-ce qu'il y a des territoires où il y a plus de sensibilité particulière?
Bien écoutez, je voudrais revenir à ces manifestations climatiques, puisqu'elles ont un impact réel sur les politiques. D'abord, ça a permis d'ancrer la question dans le débat public, une fois pour toutes. Quand vous avez des gens qui manifestent dans la rue, bien on ne sait pas les ignorer. Si tant est, bien sûr que le groupe soit assez grand, qu'il y ait assez de personnes qui manifestent, mais je pense que c'est le cas. Donc maintenant, cette question est sur l'agenda politique, et maintenant, nous avons des élections qui arrivent au niveau européen, mais aussi au niveau national et autres dans plusieurs États membres. Et on voit que maintenant, les partis politiques n'ont pas le choix, ils sont obligés de prendre position sur les questions de changement climatique. Donc maintenant, on voit plus clairement qui est pour et quelles sont les actions envisagées pour atténuer le changement climatique.
Donc il n'y a aucun doute, il y a un effet au niveau politique, de façon générale. Et puis il y a un autre exemple que j'ai vu, c'est la réunion de la COP24 à Katowice, avec la présence des jeunes. Et je fais partie de ces jeunes. Je ne sais pas si je devrais le faire, mais bon, néanmoins, les jeunes étaient présents, ils se sont fait entendre et ils ont fait le plaidoyer d'une action rapide. Et cette démarche était totalement différente de ce qu'on a vu lors de COP précédentes. Donc pour moi, il s'agit de deux très bons exemples qui démontrent que la citoyenneté écologique a un impact au niveau politique.
Est-ce que tu y vois une bonne nouvelle pour le plan Agenda 2030 ?
Bon, des bonnes nouvelles, mais ce ne sera pas facile. Soyons honnêtes, l'Europe se retrouve confrontée à bon nombre de défis. Mais on est vendredi après-midi, donc je vais me limiter à vous en parler d'un seul. Si nous souhaitons que la transition vers les objectifs 2030 réussisse, il faut prendre en compte cette autre transition qui est manifestée par les mouvements de la société, les gilets jaunes, le Brexit, et je sais que je ne devrais pas le dire, mais des partis populistes. Et c'est un processus qui nécessite la mise en place d'un nouveau contrat de société. Et pour avoir un tel contrat, il faut avoir un dialogue ouvert, équitable, qui ne réussira que s'il y a une vraie participation active de la part de la société. Mais il faut aussi qu'il y ait des plateformes qui permettent un tel dialogue. Et j'ai comme l'impression que certains de nos conseils membres offrent maintenant de telles plateformes de débat. Et je pense que dans ce sens-là, cette citoyenneté écologique écoute les citoyens et cela devrait améliorer les chances de réussite de l'agenda 2030.
Tu es un professionnel qui œuvre en faveur du développement durable, mais tu es également une personne engagée, tu le disais tout à l'heure. Quel exemple de politique nationale tu pourrais nous apporter qui te semble inspirant pour l'avenir ?
Il va falloir que je fasse très attention ici. Alors, les conseils sont là pour conseiller les gouvernements et les parlements en ce qui concerne la mise en place d'un système de développement durable. Nous ne sommes pas là pour commenter leurs politiques existantes. Et je suis sûre qu'il y a des personnes dans la salle qui vont le faire néanmoins. Mais je puis vous dire que nous constatons que dans la plupart des pays, il y a de plus en plus d'engagement. Ça a démarré en 2015 avec la signature de l'agenda 2030 qui a donné l'élan au niveau politique. Et ce que nous avons vu jusqu'en 2015, c'est que il y a une baisse du nombre de conseils, entre autres à cause de la crise économique. Mais avec l'arrivée de l'agenda 2030 au niveau de l'ONU, nous avons constaté une augmentation du nombre et on peut dire donc, je peux confirmer qu'il se passe pas mal de choses et soyons justes, nos collègues de la Finlande sont vraiment très en avant, en avance par rapport à d'autres. Mais il y a beaucoup de mouvements en cours et je suis très positif.
J'ai dépassé légèrement ce devoir de réserve. Mais du coup, je vais te reposer la question d'une autre manière. Quel conseil, du coup, le CEAC porte au gouvernement et au Parlement pour mieux intégrer justement cette citoyenneté écologique et du coup ces revendications citoyennes? Là, je pense que je vais avoir une réponse très franche et sincère.
Eh bien, nous constatons qu'il y a plusieurs de nos conseils membres qui se sont engagés dans le développement de processus gouvernementaux permettant l'inclusion. Je vais vous citer un exemple qui est très proche de ce que je connais. Et c'est un engagement avec les collègues irlandais. Cela concerne le développement d'un mécanisme de gouvernance pour améliorer ou faciliter la transition énergétique. Aux Pays-Bas, nous avons réuni pas mal de parties prenantes ayant des intérêts différenciés. Nous les avons regroupés autour de la table. Nous avons discuté pour voir comment mettre en place une passerelle qui serait acceptable pour la plupart, pas pour tous, mais pour la plupart, et comment faire en sorte que nous suivions les mesures de l'accord de Paris. Donc le Conseil s'est impliqué dans les travaux préparatoires avec la conception de tels mécanismes, et ce n'est qu'un seul exemple d'ailleurs d'un Conseil qui a proposé un Conseil qui permet de mieux entendre les voix des citoyens. Il y a d'autres initiatives culturelles, il y a des plateformes en ligne qui sont utilisées pour inclure la position des citoyens. Il y a un autre exemple intéressant, c'est ce qu'on appelle la science des citoyens. Il y a des conseils qui offrent aux citoyens des équipements de mesure pour mesurer les particules nocives dans l'atmosphère. Et cela permet d'obtenir des séries de données concernant la pollution atmosphérique. Mais cela crée une relation directe avec les citoyens dans leur trajectoire de conseil, et ensuite ces résultats, ces informations sont présentées au gouvernement. Normalement, si on donne un conseil au gouvernement, c'est aux membres du conseil et certains journalistes et les représentants des ministres de s'en extasier, mais la société ne réagit guère très souvent. Mais cette fois-ci, avec la lutte contre la pollution atmosphérique et les mesures qui ont été proposées, qui étaient fondée sur la recherche scientifique effectuée par la communauté elle-même, cela a vraiment changé la donne. Ce n'est que quelques exemples.
Merci pour ces réponses. Je retiens notamment ce que tu disais, pas pour tous, mais pour la plupart. En effet, je pense qu'il est important quand même de considérer, même dans cette inclusion citoyenne, que l'intérêt général dépasse la somme des intérêts individuels. Et c'est souvent aussi ignoré par beaucoup. Une question collective, avant de passer aux questions-réponses, enfin même deux questions collectives, parce que j'en suis mis une de côté, là. Alors là, on a entreprise, on a collectivité, on a réseau d'entreprises, réseau de collectivités d'entreprises, enfin on a plusieurs acteurs. Donc c'est bien, tout le monde travaille dans le même sens, mais comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Quelle proposition? C'est pas un exposé, mais quels sont vos... Je vous avais posé la question avant, hein, donc je sais que vous êtes préparé. C'est pas une question piège. On peut encore être galant, je crois, aujourd'hui, donc Paula.
OK. No problem. Leadership.
Le leadership. J'en ai déjà parlé. Nous sommes un réseau. C'est notre travail quotidien. Et parfois, je me demande pourquoi j'ai choisi cette carrière où j'essaye de faire travailler les gens ensemble. C'est un peu frustrant et ce n'est vraiment pas facile. Je pense que c'est difficile parfois pour les gens de comprendre le point de vue de l'autre. N'oublions pas que nous sommes des entreprises, des ONG, des organisations, des autorités municipales, etc., etc., et le citoyen de base. Mais à la base, nous sommes des êtres humains. Et il faut toujours se mettre à la place de l'autre et essayer de comprendre leur point de vue. Pour moi, j'ai dit au début, c'est le leadership qui compte. Il faut assumer le rôle de leader, dire la vision, dire qu'on a besoin d'action et dire « est-ce que vous allez me suivre ?» Et si on fait cela, cela marche à chaque fois. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec nos PDG au mois de mai. Vous avez entendu parler de la plateforme ODD. Le Conseil, la semaine dernière, a demandé qu'il y ait un agenda ambitieux, SDG, pour 2030. Bon, c'est entre les mains des citoyens, nous le savons, parce que il va falloir voir ce qui se passe lors des élections, et s'il y a une réponse adéquate de la part de la population européenne. Mais de toute façon, pour faire en sorte qu'il y ait la possibilité d'agir, nous demandons aux PDG d'afficher leur position, de contacter leurs amis dans tous les secteurs, départements et dans les ministères aussi, et en incitant à tout le monde d'agir. Il faut passer à l'action. Et je sais qu'il y a tendance à dire que c'est trop tard, mais bon, il faut agir maintenant. Et si vous, au sein de votre organisation, vous assumez le leadership, on va vous suivre et on trouvera un terrain d'entente. Voilà donc ce que je dirais.
Faire une petite recette là de la collaboration. Premier ingrédient, leadership. Pierre Guillard, peut-être, deuxième ingrédient.
Je ne sais pas si c'est un ingrédient, mais en préparant cette réunion, j'ai retrouvé une phrase qu'a citée Thierry Dallard il n'y a pas très très longtemps, le nouveau patron de la Société du Grand Paris, qui disait que Gandhi ou Mandela, la paternité était difficile à retrouver, mais ils ont dit « si tu fais quelque chose pour moi, mais sans moi, alors tu le fais contre moi ». Je crois que c'est une bonne synthèse de ce qui, malheureusement, est devant nous, et heureusement est devant nous, c'est qu'effectivement, il faut fédérer les parties prenantes dès le départ, trouver des moyens de faire. Je reste persuadé, et je suis aussi un citoyen engagé comme d'autres, je reste persuadé que la puissance publique, qu'elle soit locale ou nationale, voire européenne, doit donner le « là » de l'orientation, parce que c'est celle qui est reconnue démocratiquement, mais qu'ensuite, au titre des appels à projets, au titre effectivement de la confrontation entre les propositions des uns et les attentes des autres, eh bien, ces débats-là doivent de plus en plus être ouverts, transparents, efficaces, mobilisant à la fois les compétences citoyennes et les compétences des acteurs que nous sommes, mais faire tout seul dans son coin. Alors, j'ai quand même un peu la contradiction à gérer en ce qui me concerne, c'est qu'on est dans un monde ouvert économique et un monde de guerre économique. Donc il y a aussi des moments où il faut savoir garder ces petites recettes, comme vous dites, un peu pour chacun pour soi, parce que c'est celle qui fera qu'on gagne ou qu'on perdra, notamment les appels d'offres publics. Et heureusement, il y a quand même des appels d'offres. Donc trouver cette capacité à lier une compétition intelligente, une ouverture aux citoyens et en même temps réussir ensemble, c'est une nécessité, pas facile à gérer, j'en le reconnais, mais j'attendrai de voir ce que disent mes collègues du public dans ce domaine.
Merci Pierre. Donc on a eu leadership et je retiens plutôt que de faire pour, faire avec. François, ton ingrédient.
Donc, l'ADEME, on travaille évidemment beaucoup avec les entreprises et les collectivités déjà. Alors, par rapport aux citoyens, moi, j'ai envie de dire la transparence et le reporting. Ce matin, on a entendu Claire Agnel qui nous parlait du souhait maintenant des étudiants, qui sont des citoyens, de choisir leur entreprise. Encore faut-il, comme elle disait, avoir un indicateur. On a développé un projet qui vise à noter les entreprises à partir de leurs engagements. Beaucoup d'entreprises ont pris des engagements lors de l'accord de Paris. Est-ce que ces engagements sont suivis des faits? Donc on a développé un outil qui s'appelle ACT, Assessing Low Carbon Transition, et qui vise à donner une note aux entreprises si elles sont dans la trajectoire de degré. C'est une méthode qu'on a développée en concertation avec les entreprises. ING faisait partie des entreprises qui ont bien voulu se prêter à cet exercice. Et l'intérêt, c'est que on l'a vu, par exemple, et on le voit vis-à-vis des investisseurs. Pour des investisseurs ou des fonds de pension, avoir ce type d'indicateur, ça permet d'orienter la composition de leur portefeuille, de se sortir de certains, etc. Et donc c'est un outil qui peut être très puissant, et je pense qu'on en a besoin pour les citoyens. Vis-à-vis des collectivités, on a développé Citergy, comme vous l'évoquiez, et qui permet de labelliser l'entreprise, mais on réfléchit actuellement aussi à ce type d'instrument de notation qui est de dire, bah, effectivement, est-ce que, alors c'est compliqué aussi au niveau d'un territoire, est-ce que ce territoire s'engage? Et je pense que cette nécessité de reporting est attendue aussi des citoyens.
Donc je retiens transparence, évaluation. Oui. Très bien. Mathieu ?
Je vais te mettre directement les mots-clés, parce que nous, on est sur le terrain. Et sur le terrain, le partenariat, on l'incarne surtout par de l'enthousiasme, tout simplement, du fun, de la célébration. On doit aller vite, comme disait Mickaël. On a plus le choix, on a 12 ans de toute façon, donc on n'est pas en retard. Mais bon, voilà, c'est maintenant que ça se joue. Et nous, sur le terrain, quand on associe les parties prenantes et notre réseau, en fait, voilà, comme je le disais ce midi, on a une idée, on dit ok, c'est cool, on y va, on se passe un coup de fil, on appelle le réseau et on est dans l'action et dans l'enthousiasme de l'action. Et on y met du fun et du coup, on s'éclate à essayer de trouver des solutions. Ouais.
La citoyenneté, c'est convivial, c'est vrai. Bien sûr. Et donc, je retiens en effet enthousiasme. Michel ?
En fait, je pense que la plupart d'entre nous sommes d'accord sur l'objectif de notre voyage. Mais les choses deviennent difficiles parce que notre façon de raconter l'histoire diffère. Le récit est différent en fonction des parties prenantes. Et il faut savoir qu'il y a des différences d'aborder le récit, mais il ne faut pas en avoir peur. Il faut essayer de trouver le terrain commun dans le récit, parler la même langue ou au moins comprendre l'autre langue, et donc la langue de l'autre, c'est une clé de réussite.
Casque, hein. Assumer les différences. je retiendrai cela. Juste, on va passer évidemment aux questions-réponses. Un petit mot avant de passer aux questions-réponses, parce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé ce matin. On est quand même en Europe, le seul espace où existe, d'un point de vue statutaire, une citoyenneté européenne. On n'en a pas parlé du tout. On est en citoyenneté de superposition, hein, se superpose à la citoyenneté française, la citoyenneté européenne, et qui nous permet de circuler librement, qui nous permet d'interpeller le Parlement européen. Bref, ça, c'est une spécificité mondiale. Alors, j'ai envie de finir comme ça avec une touche d'optimisme. Peut-être que, justement, cette structuration et cet engagement politique qui est mené à l'échelle européenne va nous permettre de relever des défis. Place aux questions.
Merci, bonjour pour vos interventions, Marionnelle Reboulet de l'ONG GRS. Une question toute simple, comment intégrer d'autres citoyens beaucoup plus loin dans nos préoccupations françaises et européennes? Je parle des gens de l'autre côté de la Méditerranée, au fin fond des montagnes de l'Asie ou de l'Amérique latine.
Michel, peut-être, là-dessus? Un petit coup de main que je te donne là.
Bon, c'est la question à ne pas poser. L'Union européenne a des mécanismes en place qui permettent d'établir des engagements, des actions avec des pays voisins. Alors, comment est-ce que les choses vont évoluer en pratique? Je n'en sais pas assez pour pouvoir commenter. Mais je pense que nos politiques de voisinage vont nous aider. Et à titre personnel, je dirais que nous devons absolument nous engager avec nos voisins sur un pied d'égalité. Et c'est une des choses les plus importantes. Et c'est quelque chose qui est déjà fait par l'Europe. Votre question n'était pas très facile. Ma réponse n'est pas très facile, mais j'ai essayé.
Urgence collective. Françoise propose de compléter, justement, et ensuite Pierre également, vous voyez.
Alors, rapidement, mais de façon très concrète, puisque vous êtes du GRS, dans nos programmes d'action à l'ADEME au niveau international, on a lancé il y a un peu plus d'un an un appel à projet sur l'accès à l'énergie, sur les formes innovantes d'accès à l'énergie. Vous avez répondu à cet appel à projet, d'ailleurs. Et le contexte actuel de baisse des coûts des renouvelables crée des opportunités très importantes. Et on a eu, sur des réponses à cet appel à projet, des ONG qui travaillent justement sur le développement, des start-up, et ça, c'est ça ce qui nous a étonné, des start-up françaises qui créent aussi des filiales, des sœurs en Afrique, et qui ont répondu à cet appel à projet et qui montrent des projets dans lesquels on voit des partenariats qui permettent effectivement de sortir d'une logique où l'accès à l'électricité était une chimère pour, à travers l'extension des réseaux. Et on voit maintenant qu'il y a des solutions locales et des coopérations qui se font sur des modèles économiques qui sont viables. Et je pense que très concrètement, ça, c'est vraiment quelque chose de très positif.
Pierre, toi.
Pardon. Oui, juste ce qui nous concerne, alors là, je rebondis sur nos obligations de RSE, mais c'est vrai que, par exemple, dans le groupe ENGIE, il y a une ONG interne qui s'appelle Énergie Assistance, et l'idée, c'est de fédérer des acteurs de la coopération décentralisée, plutôt les villes, ou les villes, les régions, les départements qui se mobilisent auprès d'interlocuteurs élus de l'autre côté de la Méditerranée, et à ce moment-là, nous, nos collaborateurs, certains partent faire des missions en cohérence avec les collectivités qui les reçoivent, mais également souvent avec les citoyens qui se mobilisent pour faire ensemble ces travaux. Donc là aussi, la notion du faire ensemble et vivre ensemble est possible.
D'autres questions ?
Madame. Oui, une question un peu plus facile que la précédente. Au niveau des démarches RSE des entreprises, est-ce que vous avez pu observer qu'effectivement beaucoup d'entreprises se servent de l'analyse de la matérialité pour justement faire évaluer les enjeux avec toutes les parties prenantes, non seulement avec leurs clients fournisseurs, mais également avec des gens de la société civile, voire en y associant des experts. Je sais qu'en France, la banque Mazars a fait une étude justement sur l'utilisation des ODD dans les démarches RSE des entreprises. Sur un panel de 3000 entreprises, il y en avait à hauteur de 60% qui faisait un croisement entre les indicateurs ESG, environnement, sociétal, gouvernance, et les ODD, en y invitant justement toutes les parties prenantes. Et ma question pour Paula, c'est est-ce qu'au niveau de l'Europe, il y a également cette tendance justement à renouveler les démarches RSE en y associant les ODD et les parties prenantes, voire pour Cofeli aussi, hein?
Oui, on va donner la parole au monde de l'entreprise qui, à ma droite, n'y voyait aucun symbole.
Yes.
Oui, est la réponse. Heureusement, oui. J'espère avoir tout compris. J'ai tendance à m'exprimer et à comprendre le franglais. Mais bon, vous avez parlé de la matérialité et... RSG. Donc, après la crise 2008-2009, dans tous les domaines, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de difficultés en ce qui concerne les ressources, et cela concerne, entre autres, la RSE. Le monde des finances, bon, leur réponse a été très positive ces dernières années. Ils ont balayé devant leur propre porte, ce qui était nécessaire. Et ces institutions se sont posées des questions. Où est-ce qu'on met notre argent? Qu'est-ce qu'on finance? Donc, c'est une pression qui vient de l'extérieur en ce qui concerne les investisseurs. Et dès l'arrivée des investisseurs, nous savons que les entreprises écoutent très attentivement. Donc, c'est une bonne évolution. Je pense que pour les entreprises, il s'agit d'établir une nouvelle relation. Et là, quand je parle de la transparence, la matérialité, etc., il faut que les entreprises trouvent de nouveaux moyens de communication vis-à-vis des acteurs extérieurs. Le reporting est quelque chose qui s'améliore. Cela existe depuis 25 ans à peu près. Et je pense que de plus en plus, et surtout avec l'arrivée de la nouvelle réglementation en ce qui concerne le reporting financier européen, je pense qu'il y a une réponse positive. D'ailleurs, il y a une étude effectuée concernant des entreprises allemandes pour montrer les aspects positifs. Et c'est pour les raisons que vous avez citées, c'est-à-dire qu'il y a création de dialogue entre les acteurs. Et de niveau interne, et c'est ce que nous faisons, nous travaillons avec eux sur l'analyse, le dialogue avec les parties prenantes, etc. Il ne s'agit pas juste de cocher la bonne case, passer des coups de téléphone, écrire des courriels et dire « oui, ça y est, je suis bon en matérialité ». Non, il s'agit d'avoir un vrai dialogue. Et de plus en plus, c'est important pour la stratégie à long terme d'une entreprise d'établir une relation à long terme avec les acteurs externes, fournisseurs ou autres. Vraiment renforcer une relation à long terme. Et là, ça me fait penser à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut pouvoir travailler ensemble, s'écouter, investir mutuellement l'un dans l'autre. Et pour cela, il faut avoir un bon dialogue avec les parties prenantes. Et ceci est vrai à travers l'Europe. Et c'est une très bonne évolution.
Si ce n'est des exemples concrets, nous, effectivement, il y a toute l'action qu'on mène auprès, par exemple, de nos techniciens pour l'éco-conduite, auprès de techniciens pour le fait qu'ils utilisent des matériaux renouvelables pour même aller jusqu'à nettoyer les pompes, les filtres, les moteurs et je ne sais quoi. Donc, clairement, on a pour là aussi nous accompagner des partenariats avec de plus en plus des associations, des entreprises d'économie sociale et solidaire. Et là, effectivement, en accord aussi avec les territoires, lorsque eux-mêmes, entre guillemets, nous proposent de partager, de travailler avec des acteurs qui s'engagent dans ces domaines.
Peut-être encore une ou deux questions.
Oui, merci. Oui, j'ai une question pour Monsieur Moisan, qui a parlé beaucoup de la taxe carbone et du problème de l'acceptation citoyenne de cette taxe carbone avec des tableaux très intéressants, et puis qui a proposé que pour qu'il y ait une meilleure acceptation, une meilleure adhésion, on procède à des compensations en fonction de la capacité des foyers. Et ma question, elle est un petit peu naïve, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque avec cette compensation qu'on perde finalement l'efficacité de la mesure, c'est-à-dire que pour les foyers les plus aisés, ça n'aura pas d'impact, 200 euros par an. Bon, et en revanche, pour les foyers les moins aisés, cette compensation fait que ça n'aura pas non plus beaucoup d'impact et pas non plus beaucoup de caractère incitatif. Donc, moi, c'est un peu naïf, mais c'est la question que je me posais. Est-ce qu'il ne serait pas plus incitatif est-ce que ça ne susciterait pas plus l'adhésion si on mettait en avant le fait que la taxe carbone va concerner aussi toutes sortes d'activités et de pollution de ce type, par exemple le transport routier de marchandises, les courts trajets en avion, pour susciter une adhésion sans perdre l'efficacité de la taxe elle-même.
Merci. C'est important. Alors, tout d'abord, par rapport à le périmètre de la taxe carbone, effectivement, elle est essentiellement supportée par les ménages. Les grandes entreprises, grosses consommatrices d'énergie sont exemptées parce qu'elles sont dans le régime, ce qu'on appelle du marché des quotas. Les transports aériens internationaux sont exemptés, de facto. Mais vous savez que pour passer à l'imposition des carburants, du kérosène, de l'aviation, ce n'est pas un pays tout seul qui peut le décider. La taxe carbone, le gouvernement français peut le décider. Sur le transport aérien, il faut que ce soit fait au moins au niveau européen. Et donc là, c'est difficile. Alors, bien sûr qu'il faut le faire, bien sûr qu'il faut y arriver. Alors après, sur la redistribution, il faut bien voir que la redistribution serait sous forme d'un chèque. Le caractère incitatif de la taxe resterait, parce que si vous dépensez, si à travers la taxe, on vous prélève une fiscalité, mettons, de 400 euros par an, j'évoquais pour un ménage en zone rurale, et qu'il reçoit un chèque, les 400 euros qu'on lui prélève, s'il a la possibilité de changer de voiture, de changer de combustible, d'isoler sa maison, il va moins payer. Et en revanche, il recevra la même chose. Donc le caractère incitatif, il reste. Et sur le montant, j'évoquais pour un ménage de premier décile, dans l'hypothèse qu'on avait faite, il peut y avoir d'autres hypothèses, son revenu disponible augmenterait de 2,45%. C'est pas négligeable quand vous regardez l'évolution du revenu disponible des ménages ces dernières années. Donc c'est quelque chose qui peut être très important au niveau à la fois de l'acceptabilité et des évolutions. Pour les ménages aux revenus, dans l'hypothèse qu'on avait prise, le dernier décile n'avait pas de restitution. Donc pour lui, je suis d'accord que l'effet incitatif serait relativement faible, mais pour une grande part de la population, effectivement, et sur l'ensemble des consommations, il y a un effet incitatif qui est quand même très important. Et je vous ai pas les modèles macroéconomiques qui sont basés sur le comportement économique des ménages montrent qu'il faut que cette taxe, elle continue à croître si on veut arriver aux 40% de réduction en 2030, sinon on n'y arrivera pas. C'est un instrument qui n'est pas le seul, certes, mais qui est quand même un instrument très important dans la stratégie contre le changement climatique.
On voit bien qu'il reste en effet du travail à faire, du processus d'acceptation, un processus d'acceptabilité des différents projets. Une dernière question ? Très bien.
Thank you very much.
Merci. Pour ma part, je tiens également à poser une question au sujet justement de la taxe carbone et l'instrument fiscal. On en a parlé, alors vous nous présentez un tableau tout à fait intéressant, mais si j'ai bien compris, les habitants des villages, donc dans les zones rurales, vont être touchés plus durement relativement par rapport à ceux qui vivent dans des... ceux qui vivent dans les zones urbaines. Alors, ça paraît un peu injuste parce que vous avez... c'est quand même... c'est justement... enfin, vous avez des gens qui quittent les villes, la campagne pour aller à la campagne. Et ce n'est pas une bonne tendance parce que cet exode rural n'est pas une bonne chose parce qu'il faut qu'il y ait une population active importante dans le secteur des zones rurales. Donc ça paraît injuste. Enfin, il y a cet effet où les gens ont tendance à quitter les campagnes à cause de cela. Mais quelle est la réponse à cela? Parce que si cette tendance se confirme, c'est-à-dire que vous avez davantage d'exodes ruraux, il y a de plus en plus de gens qui préfèrent habiter en ville. C'est finalement les terres agricoles qui vont être perdues, qui vont au développement, enfin, l'expansion urbaine finalement. Et puis vous savez que d'ici à 2050, il y aura 10 milliards d'habitants sur Terre, dont la plupart habiteront dans les villes. Et il n'y aura même pas moyen de nourrir toute cette population.
I will try to respond in English.
Si vous me permettez de répondre en anglais, ce que vous dites est très juste, mais c'est pas simple parce que dans les zones rurales, vous avez des maisons qui sont mal isolées, qui sont chauffées au fioul, avec des voitures au diesel. Évidemment, ces zones seront plus durement touchés. Mais bon, on pourrait imaginer un système de redistribution pour équilibrer les choses, mais enfin, ce ne serait pas évident. Mais enfin, bon, mais ça, on a essayé de le faire. On a essayé de le faire, notamment en Suède, il y a un système de redistribution qui permet de rééquilibrer les choses un peu. En France, en tout cas, il y a un autre aspect, c'est-à-dire que les gens ne veulent plus vivre en centre-ville. C'est une tendance qu'on constate, c'est que on ne veut plus vivre dans des immeubles. Souvent, les gens préfèrent avoir leur propre, carrément avoir un pavillon en banlieue. C'est pas les zones rurales. On est quand même en zone périurbaine. Mais enfin, ça fait partie de l'étalement urbain. Et ça, effectivement, en soi, ne fait que compliquer la chose en termes de déplacement, les gens qui doivent parcourir des distances assez longues entre leur maison et leur travail. Alors, il faut prendre tout ça en compte, mais au bout du compte, on a ce phénomène d'étalement urbain et de création, enfin, de ces zones périurbaines qui posent problème, parce que c'est là qu'il y a un maximum d'émissions de CO2, parce que ces gens souvent prennent la voiture pour se déplacer au quotidien.
Alors, je vais conclure très rapidement avec un petit truc original, puisque je vais vous demander de vous présenter, figurez-vous, puisque on m'a fait passer un petit papier, c'est moi qui vous ai présenté, il fallait que ce soit vous qui vous présentiez pour le compte rendu. Donc excusez-moi de commencer par le non. D'accord, c'est pour les gens. Bon, c'est bon alors. Excuse-moi, j'ai pas pris en compte du coup l'observation. Je comprenais pas trop aussi l'objet du papier. Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie et je remercie pour la qualité de vos interventions et je trouve la sincérité des propos. Et on rend également la petite zapette. Oups voilà. Merci à tous.